Vous écoutez, on lit pour vous.
La Cour suprême américaine se penche sur les livres scolaires contenant des sujets LGBTQ+. Un texte de l'agence France Presse paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. La Cour suprême américaine a semblé pencher mardi le 22 avril 2025 du côté de parents d'élèves qui revendiquent, au nom de leur liberté religieuse, d'être avisés lorsque des livres abordant des thèmes LGBTQ+, sont utilisés en classe afin de pouvoir retirer leurs enfants du cours. Les interdictions de livres sont un sujet sensible dans la société américaine. Certains États conservateurs ont ainsi retiré des bibliothèques des ouvrages accusés de promouvoir l'homosexualité, des idéologies progressistes ou d'être trop choquants. Le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, a pour sa part promulgué en 2022 une loi interdisant d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire, surnommée par ses détracteurs « Don't say gay », ne parlez pas des gays. La Cour suprême, composée d'une majorité de juges conservateurs, a examiné mardi 22 avril 2025 le pourvoi de parents d'élèves d'écoles publiques d'un comté du Maryland, près de Washington, D.C., qui a introduit en 2022 dans le cursus des écoles maternelles et primaires des livres d'histoire visant à combattre les préjugés sur l'homosexualité ou l'identité de genre. Après avoir initialement prévu une notification aux familles pour leur permettre de demander que leurs enfants soient dispensés des cours où ces livres pourraient être utilisés, le comté a annulé cette option. Ces parents, de confession musulmane ou chrétienne, y voient une atteinte à leur liberté de culte garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Coercition et faisabilité. Les autorités scolaires veulent perturber les efforts des plaignants pour transmettre à leurs enfants leurs convictions religieuses sur la sexualité et le genre, avaient affirmé les parents dans leurs arguments écrits à la Cour suprême, lui demandant d'annuler la décision d'appel en leur défaveur. Le comté expliquait pour sa part que, en 2023, l'expérience des professeurs, des directeurs et des gestionnaires d'école a démontré que ces dispenses étaient impraticables, se traduisant notamment par une explosion de l'absentéisme. La jurisprudence de la Cour suprême a établi que la seule exposition d'élèves en classe à des idées contraires à leur religion ne relevait pas de la coercition interdite par la Constitution, fait-il valoir. Lors de l'audience, une majorité de juges ont semblé pencher du côté des parents et rejeter l'argument de faisabilité invoqué par les autorités scolaires. Les plaignants ne demandent pas que l'école change son programme éducatif, a déclaré le juge conservateur Samuel Alito, qui estime que les parents voulaient seulement avoir le choix de retirer leurs enfants de certains cours. Pourquoi n'est-ce pas faisable? A-t-il demandé. Soutien du gouvernement Trump. Le département de la justice du gouvernement Trump soutient les parents qui se sont pourvus devant la Cour suprême, dénonçant un cas d'école d'ingérence dans la liberté de culte. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré mardi que le gouvernement espérait que la Cour suprême arrive à la bonne conclusion. Le président a été très clair sur le fait qu'il se tient du côté des droits parentaux, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse. La décision des 9 juges est attendue d'ici fin juin 2025. C'était « La Cour suprême américaine se penche sur les livres scolaires contenant des sujets LGBTQ+, un texte de l'agence France Presse paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Le Québec face à la menace des superbactéries. Un texte d'Annie Labrec, paru le 3 avril 2025 dans Québec Science. Les bactéries résistantes aux antibiotiques représentent une menace croissante pour le système de santé. que fait-on pour les contrer? Hospitalisé et affaibli par une pneumonie, vous recevez des antibiotiques. Mais une bactérie déjà présente dans votre organisme et habituellement inoffensive, E. coli, Klebsiella ou Pseudomonas, devient résistante et prolifère. Ce scénario risque de devenir de plus en plus courant. Selon un rapport de l'Agence de la santé publique du Canada publié en novembre 2024, on détecte un cas d'infection résistante pour chaque groupe de 220 malades hospitalisés selon les établissements qui surveillent ces cas. Bactéries sous surveillance. Le système de santé québécois suit de près l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Nous avons un excellent système de surveillance des infections nosocomiales, contractées en milieu hospitalier, affirme le Dr Christian Lavallée, microbiologiste infectiologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pour l'instant, les antibiotiques à large spectre permettent encore de traiter la majorité des infections résistantes. Ils soignent environ 90 % des cas rencontrés dans la plupart des hôpitaux, mentionne-t-il. Ce qui l'inquiète toutefois est la hausse des infections causées par les bacilles à gram négatif producteurs de carbapénémase, BGNPC. Ces bactéries produisent une enzyme, la carbapénémase, qui neutralise les carbapénèmes, une classe d'antibiotiques de dernier recours. Les infections causées par ces bactéries sont en hausse au Québec depuis les trois dernières années, avertit-il. Les données de l'Institut national de santé publique du Québec confirment cette tendance. 99 infections à BGNPC ont été recensées en 2023-2024 contre 64 en 2022-2023. Elles se produisent surtout en milieu hospitalier chez des patients et patientes qui y séjournent longtemps et qui souffrent en plus de maladies chroniques. Certains patients, malgré tous nos efforts, développent des infections récurrentes, résistantes à tous les antibiotiques disponibles, constate la docteure Makeda Semret du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, où elle dirige une équipe spécialisée en prévention et dépistage des infections. Lorsque plus d'aucun antibiotique classique ne fonctionne, une demande d'accès spécial doit être faite à Santé Canada pour obtenir des traitements antibiotiques de dernier recours, parfois approuvés ailleurs, mais non disponibles de manière courante au pays. Cela peut prendre plusieurs jours avant de recevoir l'antibiotique en question, ce qui est problématique face à des infections graves. Dans notre hôpital, nous avons dû recourir à ces traitements de la dernière chance une cinquantaine de fois l'an dernier, précise la médecin. Utilisation excessive. Depuis leur découverte, l'utilisation des antibiotiques n'a cessé d'augmenter, ici comme ailleurs. Même les pays qui n'avaient pas les moyens d'y accéder en consomment désormais massivement. Résultat, la résistance aux antibiotiques progresse à une vitesse alarmante. Si nous continuons à les prescrire aussi largement, souvent par précaution, sans diagnostic clair, le problème va empirer, avertit la docteure Makeda Semret. Trop souvent, un patient présentant des symptômes vagues reçoit un traitement avant même que l'infection soit confirmée. Ensuite, l'antibiotique est prolongé, parfois par oubli, parfois parce que le patient semble aller mieux, sans qu'on sache si c'était nécessaire. De son côté, l'équipe de la docteure Semret s'attarde particulièrement sur ces volets d'intervention, la prévention, le dépistage, la surveillance des bactéries et l'usage des antibiotiques. Nous surveillons de près la prescription des antibiotiques et intervenons rapidement en cas d'usage inapproprié, explique la docteure Semret. Depuis 5 ans, elle constate une baisse de leur utilisation dans son établissement. Nos taux de résistance sont stabilisés, note-t-elle. De nombreuses infections peuvent être évitées selon la médecin. Il ne faut donc pas se limiter au traitement. La prévention doit être une priorité. Les antibiotiques sont une ressource précieuse qui ne doit pas être gaspillée. Ils ont transformé la médecine en réduisant le taux de mortalité et en permettant des traitements comme la chimiothérapie ou la transplantation d'organes. il est essentiel de les préserver, insiste la docteure Semrett. Il est aussi nécessaire de continuer d'explorer de nouvelles approches et de développer de nouveaux antibiotiques, un domaine délaissé par l'industrie pharmaceutique. Nous devons relancer la découverte d'antibiotiques. L'industrie pharmaceutique recommence doucement à s'y intéresser, remarque la docteure Semrett. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre d'agents antibactériens en cours de développement clinique est passé de 80 en 2021 à 97 en 2023, mais c'est loin d'être suffisant compte tenu de la probabilité d'échec. Des bactéries résistantes aux antibiotiques. Entérocoque résistant à la vancomycine, ERV. Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, SARM. Bacille à gram négatif producteur de carbapénémase, BGNPC, incluant Citrobacter sp, Enterobacter sp, Escherichia coli, Aphnia alvei, Klebsiella sp, Cluivera sp, Morganella sp, Proteus sp, Providencia sp, Salmonella sp, Shigella sp, Serratia sp. Le recours aux phages. À ce jour, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont n'a jamais employé la thérapie phagique, une approche qui repose sur l'utilisation de virus ciblant les bactéries résistantes. Nous n'avons pas le temps, explique le docteur Lavallée. En cas d'infection grave, c'est une question de vie ou de mort en l'espace de quelques jours. Les bactériophages seraient plus appropriés pour les infections chroniques lorsque le patient n'est pas dans un état critique. C'était « Le Québec face à la menace des superbactéries », un texte d'Annie Labrec, paru le 3 avril 2025 dans Québec Science.
La SAQ est assise entre deux chaises. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 2 avril 2025 dans La Presse. De toutes les manières possibles, on nous martèle depuis près de 40 ans qu'il faut réduire notre consommation d'alcool, pour notre santé et celle d'autrui. La stratégie a fonctionné. Les Québécois boivent de moins en moins. Mais cette tendance place la SAQ dans une situation inconfortable. Ce qui se passe au Québec n'a rien d'unique. En Europe, 25 pays observent eux aussi une baisse des ventes d'alcool, dont la Finlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la Grèce. Dans l'Hexagone, la proportion d'adultes consommant de l'alcool tous les jours a fondu comme neige au soleil, passant de 21,5% à seulement 8% depuis deux décennies. Même scénario aux États-Unis, où le désintérêt marqué de la génération Z pour l'alcool fait régulièrement les manchettes. En tenant compte de l'inflation, les dépenses en alcool des jeunes de moins de 25 ans ont fondu de 60% en 20 ans. Et cette année, un Américain sur deux dit qu'il tentera de boire moins, selon NC Solution, ce qui fait exploser les ventes de produits sans alcool. Même avec tout le marketing du monde, la SAQ ne renversera pas cette tendance qui la frappe depuis 3 ans. De toute manière, d'un point de vue de santé publique, le voudrait-on? Soyons réalistes. La société d'État est condamnée à composer avec la nouvelle réalité tout en respectant le mandat et les valeurs qui lui ont été attribuées. C'est ici que ça se complique. Certains énoncés peuvent prêter à interprétation et révéler des objectifs incohérents, du moins en apparence. Quand les affaires vont rondement, qu'on ouvre des succursales parce que les amateurs de bon vin sont toujours plus nombreux, personne ne porte vraiment attention à la section « Profils et mandats » sur le site de la SAQ. Dans le contexte actuel, c'est différent. En réaction au volume de vente qui recule petit à petit, entre 2 et 4 % chaque trimestre, La SAC a décidé de fermer 8 succursales sur 410, 1,95% dans la prochaine année. Certaines se trouvent en ville, Gatineau, Sainte-Foy, Chicoutimi, Brossard, quartier Villemar de Montréal. Dans tous les cas, une autre succursale se trouve à moins de 3,5 km. Au cœur de plus petites localités, l'impact est plus grand. À Rivière-Bleue, la SAC la plus proche de celle qui vient de fermer se trouve à Poénégamouk, à plus de 20 km. À Stanstead, les clients devront parcourir 17 km jusqu'à Ayerscliff, où se trouve une agence. Pour une vraie succursale, il faudra rouler 32 km pour atteindre Magog. Ceux qui fréquentent le magasin de Biddeurfey auront deux options, Beaconsfield et l'île Perrot, toutes deux à 6 km. Ce n'est pas idéal. Sans surprise, comme on le voit quand Desjardins ferme des succursales, des maires sont montés au créneau dans l'espoir que les décisions soient annulées. Ils espèrent aussi obtenir un moratoire sur les fermetures, car la vitalité de certains centres-villes serait compromise, selon eux. La SAC rétorque que les succursales qui fermeront observent toute une baisse d'achalandage depuis des années, car leurs clients font déjà leurs emplettes ailleurs. N'empêche, ces fermetures soulèvent une question fondamentale. La SAC doit-elle jouer un rôle dans le développement commercial des centres-villes? Officiellement, non. Ça ne fait pas partie de son mandat. Ce rôle est d'abord celui des élus municipaux mécontents qui se retrouvent en quelque sorte à faire porter sur les épaules de la SAC leurs propres responsabilités, mais officieusement. On est en droit de s'attendre à ce qu'un monopole d'État ne nuise pas à la santé financière de l'État pour lequel il travaille. Le site de la SAC nous apprend d'ailleurs que 4 valeurs doivent guider ses actions, dont celle-ci. Inspirer la fierté des Québécois en plaçant le bien collectif au cœur de toutes nos décisions. Il serait réducteur de croire que l'on fait uniquement référence ici aux profits versés à Québec pour financer l'éducation et la santé. Une interprétation plus large du bien collectif pourrait inclure des rues principales remplies de commerces attrayants. Mais voilà, la SAC doit aussi appliquer les plus hauts standards de gestion. Cela suppose une utilisation rigoureuse des fonds publics et la fermeture des magasins peu ou pas rentables. Comme contribuable, il faut exiger que les décisions du monopole soient prises dans le but de maximiser les dividendes versés à Québec. D'ailleurs, si la SAC décidait d'être présente dans les 1127 municipalités de la province, sans se soucier de la rentabilité de l'opération, la pluie de critiques ressemblerait à un ouragan. Au fil des ans, on a reproché à la SAC de ne pas agir comme une entreprise commerciale dynamique, cherchant à réduire ses frais d'exploitation et à offrir une expérience client remarquable. Lui reprocher l'inverse équivaut à reconnaître qu'elle ne peut jamais gagner, quoi qu'elle fasse. Comme toutes les autres organisations, la SAC n'est pas irréprochable. Elle doit améliorer l'efficacité de ses commandes en ligne, et nous avons toutes les raisons de déplorer sa gestion des bouteilles qui pourraient être consignées depuis des lunes. Mais il faut demeurer réaliste et cohérent. On peut vouloir collectivement que la SAC ne ferme plus aucune succursale pour des questions de vitalité commerciale, mais dans ce cas, il faudrait revoir son mandat et accepter le risque d'un dividende moindre ou de prix de détail supérieur. C'était « La SAC est assise entre deux chaises », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 2 avril 2025 dans La Presse.
Concours de critique littéraire du prix des Horizons imaginaires, un texte de Maud Frenette, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. Le prix des Horizons imaginaires, dont le jury est constitué d'étudiants du réseau collégial, a couronné J.D. Curtness pour La vallée de l'étrange, l'instant même. Les autres finalistes étaient Venefica de Raphaël B. Adam, tête première, et Douze arpents de Marie-Hélène Sarrazin, tête première. En marge de ce prix, qui honore une œuvre issue des littératures de l'imaginaire, a été mis sur pied un concours de critique littéraire. Cette année, Maud Frenette, du Cégep du Vieux-Montréal en arts, lettres et communications, remporte les honneurs avec une critique de Douze arpents, dont voici le texte. La magie de Douze arpents par Maud Frenette du Cégep du Vieux-Montréal en arts, lettres et communications. Dans Douze arpents, on revisite brillamment le style du roman du terroir, un genre littéraire québécois valorisant le mode de vie des paysans entre les années 1845 et 1945. Alors que la première histoire se déroule dans ces années, une touche de modernisme est ajoutée avec l'histoire de Marine. Mère de famille, elle emménage à Saint-Didas en 2017 pour respecter le curieux testament de sa grand-mère qui lui implore d'emménager en campagne. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas enthousiastes à l'idée de lire un roman du terroir qui s'annonce ennuyeux, je vous rassure. Tout en gardant l'essence du genre, l'auteur et professeur de littérature Marie-Hélène Sarrazin partage un point de vue moderne qui ajoute en dynamisme et démontre l'actualité des propos déjà abordés il y a plus d'un siècle. Que ce soit la construction d'un chemin de fer à travers le village ou celle de nouveaux complexes résidentiels, des investisseurs tenteront de faire valoir leurs projets aux yeux des habitants sceptiques, ancrés dans leurs habitudes. Contrairement aux romans de la Terre de l'époque, qui ont comme rôle de dénoncer férocement les dangers de l'industrialisation, celui-ci laisse place au débat et présente un point de vue nuancé qui donne une chance à la modernité. Entre mythe et réalité. Suivant Marine et sa famille, nouveaux habitants de Saint-Didas, nous tentons de déceler le vrai du faux parmi les contes et les légendes qui circulent dans le village. Des sœurs multicentenaires, une femme hybridée à son potager, un herboriste au passé hanté, le récit entier ressemble à une légende qui aurait été tirée du réel. Heureusement, le roman nous guide dans notre recherche de la vérité, notamment à travers une enquête. Pour donner vie à cet aspect mythique, on retrouve le personnage d'Achille Corriveau, qui rappelle la célèbre histoire de Marie-Joseph Corriveau, surnommée la Corriveau. Celle-ci aurait empoisonné ses 7 maris. On a tant spéculé sur l'histoire de celle nommée sorcière par certains, meurtrière par d'autres, que sa vérité historique est lentement devenue légende. Marie-Hélène Sarrazin s'en inspire et joue, elle aussi, avec les différentes rumeurs l'entourant. Moi qui suis fanatique des récits de true crime, j'ai retrouvé la même satisfaction à lire ce livre qu'à écouter des balados sur des histoires remplies de mystères comme celle de la Corriveau. La vie de campagne. Une discussion de groupe sur le roman Douze arpents a fait émerger plusieurs anecdotes propres à la vie de campagne. Moi qui n'y suis pas familière, j'ai été étonnée d'entendre autant d'anecdotes qui semblaient si proches de cette dynamique de village retrouvée dans le livre. En effet, les interactions, les personnages et l'atmosphère du roman trouvaient visiblement leur source dans les expériences personnelles de l'auteur. Cette dernière, qui vit et écrit à Saint-Gabriel-de-Brandon, la ville voisine de celle de l'histoire, a su ancrer habilement ce récit magique dans le réel. On y retrouve des éléments typiques d'un patelin que tout rural peut reconnaître. Le curé, les marchés, de nouveaux voisins, des rumeurs propagées rapidement. Le tout est finement tricoté par les commères, trois sœurs régnant sur le village depuis plus d'un siècle. Nature, humain, humain, nature. La simplicité artistique de l'écriture nous absorbe dans un univers envoûtant du début à la fin, puis de la fin jusqu'au début. En effet, c'est avec un maniement habile des mots que l'auteur crée une impression de boucle, de continuité, de cycle. Cette perpétuation est retrouvée dans les conflits du récit qui semblent se répondre malgré le siècle qui les sépare. En effet, Douze arpents, c'est cette peur de la modernité qui n'est pas bien accueillie chez les Didaciens, autant en 1937 qu'en 2017. Douze arpents, c'est la menace incessante de l'industrialisation contre la beauté envahissante de la nature, un combat qui ne perdra jamais son actualité. Douze arpents, c'est la révolte, mais aussi un conflit entre la protection de la nature et l'expansion du territoire. Car si l'humain n'étend pas son territoire, la nature va s'en charger. Ainsi, on retrouve dans cet effet de perpétuation un écho à l'aspect cyclique de la nature qui finira toujours par reprendre le dessus. Le langage bien choisi par la poète brouille les frontières entre la nature et l'humain, donnant l'impression qu'ils se mélangent et se co-transforment pour ne faire qu'un. Au-delà de la métaphore, certains personnages illustrent littéralement leur cohabitation. Il y a 14 ans, Rose a fermé la porte de la maison une dernière fois avant de se diriger vers le potager. Elle s'est déchaussée et a enfoncé ses orteils entre le rang des tomates et celui des haricots grimpants, qui lui ferait de l'ombre. Depuis, le sol s'est creusé jusqu'aux genoux, les jambes sont enfouies. C'est ça, la magie de Douze arpents. C'était Concours de critique littéraire du Prix des Horizons Imaginaires, un texte de Maude Frenette, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires.